Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous entrons dans le temps de la Septuagésime. De quoi s'agit-il et pourquoi l'Église nous fait-elle revêtir aujourd'hui les ornements violets? Notre Seigneur est venu dans le monde, nous avons fêté sa venue le jour de Noël, nous nous sommes réjouis et nous sommes restés en compagnie de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'au 2 février, jour de la présentation de l'enfant Jésus au temple. Et maintenant, il est temps que nous nous lancions dans la vie. L'Église, après nous avoir fait prendre des forces, du courage, auprès de la crèche, auprès de Jésus dans la crèche, nous lance maintenant dans la vie. Or, que se passe-t-il? Il se passe, comme le dit Saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui, que nous sommes tous à nous battre, d'une part, nous sommes tous dans les difficultés de la vie, mais bien que tout le monde souffre, tout le monde ne remporte pas la victoire. Et cela est très important. Nous nous imaginons que, très facilement, que parce que nous sommes dans le monde, que nous sommes à peu près fidèles, surtout que nous respectons à peu près les lois de l'Église, nécessairement nous serons sauvés. Mais il n'en est pas ainsi. Et Saint Paul rappelle que tous les Juifs de l'Ancien Testament ont participé aux mêmes difficultés, ils ont été dans la même nuée, c'est-à-dire dans la même église. La nuée, c'est le Saint-Esprit. Donc les Saint-Esprit les a couverts tous. Ils ont passé la mer Rouge. La mer Rouge, c'est le baptême. Ils sont sortis d'Égypte, c'est-à-dire qu'ils ont quitté d'une certaine manière le monde. Ils ont quitté le monde qui est dominé par le diable. Ils ont, comme nous avons reçu le baptême, parce qu'en réalité, vous vous rendez bien compte, mes bien chers frères, que lorsque Saint Paul parle des Hébreux, il parle de nous. Ils ont donc reçu le baptême. Il le précise, d'ailleurs, ils ont été baptisés dans la nuée et dans la foi, dans la mer, c'est-à-dire qu'ils ont reçu le baptême d'eau qui donne le Saint-Esprit. Ils ont reçu la même nourriture spirituelle, qui est la manne, et qui est la figure de l'Eucharistie, c'est-à-dire que nous tous, nous communions. Et Saint Paul précise, ils ont tous reçu la même boisson spirituelle, qui a coulé de la pierre, c'est-à-dire du côté du Christ. Donc nous avons tous participé à la même messe. Et pourtant, Saint Paul est très précis, ils n'ont pas plu à Dieu. Enfin, tous n'ont pas plu à Dieu. Certains, oui, mais tous, non. Première application. Pour vous rassurer, pour voir ce qui se passe en face, c'est la situation de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, et particulièrement des traditionalistes, qui s'imaginent que parce qu'ils ont la bonne messe, que parce qu'ils sont dans l'église non conciliaire, que parce qu'ils sont dans la fraternité Saint-Pédis, qu'ils ont à peu près fait ce qu'il fallait pour vivre apparemment dans l'Église et selon les lois de l'Église, qui s'imaginent qu'ils seront sauvés. Eh bien non, cela ne suffit pas. Notamment, il ne suffit pas d'assister à la messe, ni même à la bonne messe pour être sauvé. Sinon, tous ceux qui ont assisté au sacrifice de notre Seigneur au calvaire devraient être sauvés. Or, pourtant, parmi ceux-là, il y a des réprouvés, ne serait-ce que le mauvais larron. Vous avez le bon larron et le mauvais larron qui assistent de la même manière au même sacrifice, dans les mêmes conditions, l'un est sauvé, l'autre est condamné. Donc, il est évident que cela ne suffit pas. Il doit y avoir des dispositions intérieures. Je vous en ai déjà parlé à un autre sermon. Et bien plus, si on se persuade que cela suffit, c'est le meilleur moyen de déplaire à Dieu. Parce que Dieu veut une vie intérieure, Dieu veut un amour de lui, Dieu veut les vertus de foi, d'espérance et de charité qui sont des vertus théologales, qui nous mettent en union avec Dieu, et qui nous branchent sur Dieu, et qui nous font vivre, qui transforment toute notre vie. Et si nous sommes, hélas, séparés, si nous avons dû, hélas, nous séparer de la fraternité Saint-Pédis, c'est parce que nous voulons lutter dans le stade, mais gagner la victoire et plaire à Dieu. Alors, maintenant, après avoir vu ce qu'il ne faut pas faire et l'exemple de ceux qui, hélas, nous montrent ce qu'il ne faut pas faire, voyons-nous nous-mêmes. Si nous répétons la même erreur, nous déplairons de nouveau à Dieu. Pour ne pas répéter la même erreur, il va falloir vivre d'une véritable vie intérieure. Si nous répétons la même erreur, qu'est-ce à dire? Si nous voulons reproduire dans la fidélité catholique, je sais, je ne dis pas la résistance et c'est exprès. Si nous voulons reproduire dans la fidélité catholique ce que nous avions dans la fraternité Saint-Pédis, nous commettons la même erreur. Dans la fraternité Saint-Pédis, on a trop voulu reproduire ce qu'on avait avant la crise. Et une situation que j'ai connue, parce que j'ai connu ces années-là, et la ressemblance est frappante entre la fin des années 50, le début des années 60 et la situation aujourd'hui pour la fraternité Saint-Pédis, une situation qu'il faut bien le reconnaître, donne un certain confort, bien qu'il faille lutter, puisque nous sommes effectivement dans l'arène, que nous devons nous battre, c'est vrai, mais un certain confort dans le combat. Si nous voulons reproduire ce qui nous rassure, nous ne plairons pas à Dieu. Qu'est-ce qui nous rassure? Ce qui nous rassure, tout d'abord, c'est la structure. La société se définit par la foi et par l'amour. L'Église se définit par la foi et par l'amour. C'est la réponse du catéchisme de Saint-Pédis à la question « qu'est-ce que l'Église ?» L'Église, c'est la société des chrétiens qui professent la même foi, participent au même sacrement et sont soumis, reconnaissent comme vicaire du Christ le pape. Alors que le catéchisme des diocèses de France, 1945, « qu'est-ce que l'Église ?» L'Église, c'est la société des chrétiens soumis au pape. Dans le premier cas, vous avez une définition très juste et par l'objet, c'est-à-dire par Dieu et la foi en Dieu. Dans l'autre cas, vous avez une simple soumission qui évite d'avoir à réfléchir. La structure, si elle est primordiale, le pape, les évêques et tout cela, avec l'obéissance, peut nous perdre. La structure n'a d'intérêt que si elle est au service de la foi, de l'espérance et de la charité. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas dans la fidélité catholique de structure forte et bien établie. Et bien établie, oui, mais forte, non. Et c'est exprès, nous ne voulons pas. Y en aurait-il une, cela serait dangereux. Ce que nous voulons donner, et ce qui est l'idéal que nous transmettons, ce n'est pas une structure avec une autorité forte, c'est un idéal de vie chrétien, de vie chrétienne, dans la foi, et foi qui débouche sur la charité, c'est-à-dire sur l'amour de Dieu. Deuxièmement, nous reproduirions l'erreur qu'il ne faut pas reproduire en voyant dans la messe un tout qui suffit. La messe est un sacrement, elle nous met au pied de la croix. Ce qui compte, c'est d'être au pied de la croix. Et lorsque nous avons bien profité de la messe, il nous est facile de rester au pied de la croix longtemps, même sans messe. S'il faut que les messes soient répétées pour nous, si notre Seigneur a voulu que la messe soit répétée toutes les semaines, voire tous les jours, c'est à cause de notre faiblesse, pour nous rappeler, pour revivifier en nous notre sacrifice, notre union à Jésus crucifié. Mais si vraiment nous avons bien profité d'une messe, le fruit en reste très vivant, même s'il faut attendre longtemps la messe suivante. Je ne dis pas qu'il faut négliger la messe, et surtout encore moins la mépriser, c'est une évidence. Mais je veux dire que Dieu, dans sa sagesse, dans sa providence, permet qu'à certaines conditions, nous ayons souvent la messe, et dans d'autres conditions, nous l'ayons peu. Et malgré tout, Dieu veut toujours que nous l'aimions. Et par conséquent, il faut être certain que lorsque Dieu nous met dans l'épreuve, en nous privant plus ou moins de messe, ce n'est pas pour nous retirer des bienfaits spirituels, c'est au contraire pour nous pousser à aller les chercher là où ils sont et à cultiver le fruit et à voir que l'arbre n'a pas d'intérêt si nous n'avons pas le fruit. C'est le fruit qu'il faut cueillir. Troisièmement, il faut bien se le rappeler, saint Paul dit « je châtie mon corps ». Il ne dit pas qu'il le tue. Il ne s'agit pas de se tuer, on s'aime. Il s'agit de le châtier, comme un serviteur qui s'est révolté et qu'on châtie pour qu'il devienne un bon et fidèle serviteur. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de la pénitence, il s'agit du sacrifice, il s'agit de mater nos tendances naturelles qui, lorsqu'elles s'opposent à notre idéal surnaturel, à notre amour de Dieu, il s'agit de mater nos tendances naturelles pour faciliter la pratique de notre idéal. Cet esprit de pénitence, quel est-il? Tout d'abord, ne pas vivre comme le monde. Et déjà, mes bien chers frères, vous tous qui m'écoutez, vous avez déjà pratiqué cette pénitence et vous vous êtes déjà sacrifié en n'ayant pas la télévision chez vous, par exemple, en ne vivant pas selon les modes du monde, en ayant osé vous faire mépriser par vos amis, parce que vous êtes demeurés fidèles et qu'eux ne le comprennent pas, en ayant osé vous faire mépriser par les membres de la fraternité Saint-Pilis, qui, comme les Hébreux qui ont quitté l'Égypte, sont persuadés qu'il suffit d'avoir traversé la mer Rouge et d'avoir été dans la nuée pour être sauvés, alors que non, aucun de ceux qui est sorti d'Égypte n'est entré dans la terre promise, ils sont restés 40 ans dans le désert, ils y sont tous morts, et qui sont persuadés de ça. Et alors, nous ne parlons plus le même langage. Et c'est crucifiant de voir qu'ils ne nous comprennent plus, ils ne comprennent plus la vérité. Nous avons le sacrifice également en vivant dans l'amour de Dieu au milieu de son monde mauvais. Nous avons quitté l'esprit du monde, mais nous n'avons pas cherché à nous réfugier dans une structure qui nous rassurerait et nous éviterait de nous battre. Bien sûr, il y a également une pénitence plus marquée, plus corporelle. N'oublions pas l'amour de la chasteté dans le mariage. Et puis, il y a le jeûne que l'Église a toujours recommandé et qui a disparu avec la Seconde Guerre mondiale. Il est évident que la vie chrétienne devient nettement plus difficile si nous n'avons pas l'habitude de pratiquer le jeûne. Il y avait jusqu'à la Seconde Guerre mondiale
54 jours de jeûne dans l'Église. Il y avait les 40 jours du carême qui étaient jeûnés. Il n'y avait abstinence que le mercredi, le vendredi et le samedi de carême. Mais le jeûne tous les jours. Il y avait les quatre temps. Ceux du carême sont déjà comptés. Donc ceux de la Pentecôte, ceux de septembre et ceux de l'Avent, ça fait plus 9, on arrive à 49. Et il y avait 3 ou 4 vigiles. Donc on arrive à 52, 53 jours de jeûne. Et tout le monde le pratiquait. Le saint Jean Chrysostome, qui étant évêque et comme Mgr Lefebvre, un bon père pour ses fidèles, avertit dans son traité de l'éducation des enfants, il avertit le père de famille. Un père de famille raisonnable, dit-il, devrait faire jeûner son fils 2 fois par semaine dès que celui-ci entre dans l'adolescence. Et puis, sans aller jusqu'au jeûne des pères du désert, qui était très rigoureux, il faut se rappeler que les moines, les bénédictins, les dominicains, commencent leur carême le 14 septembre pour le finir à Pâques. Mgr Lefebvre ne nous demandait pas d'imposer ces règles, parce que c'est une telle pagaille que maintenant c'est à chacun de voir ce qu'il doit faire. Nous ne pouvons plus imposer ces lois qui risqueraient de ne plus correspondre aux situations. Mais il nous demandait de recommander ce jeûne. Est-ce que c'est ce que je fais dans le sermon présent. Si on n'a pas l'habitude du jeûne, on peut commencer petitement avec un demi-jeûne ou un jeûne certains jours. Vous verrez très vite que cela libère l'esprit, donne beaucoup de liberté. Je ne veux pas prolonger trop ce sermon et je voudrais terminer avec la Très Sainte Vierge. Nous avons fêté hier, enfin aujourd'hui où je prêche ce sermon, mais pour vous qui l'écouterez, ça sera la veille. Donc nous avons fêté ce samedi Notre-Dame de Lourdes. Et Notre-Dame de Lourdes est très encourageante. C'est la même leçon que celle de l'Évangile. Notre-Dame de Lourdes vient dans une période terrible. La Révolution fait des ravages, des progrès inouïs. Et elle vient. Elle apparaît à Sainte Bernadette et elle va faciliter, elle va montrer que si on recourt à elle, la vie chrétienne devient facile. Elle en donne la preuve par l'eau miraculeuse, mais il est évident que l'eau miraculeuse n'est qu'un signe. Quiconque va à la Sainte Vierge est guéri de ses blessures. Quiconque va à la Sainte Vierge est soulagé dans ses peines. Quiconque va à la Sainte Vierge entre facilement, avec aisance, dans l'amour de Dieu. Et même les ouvriers de la dernière heure, et j'allais dire peut-être même surtout les ouvriers de la dernière heure, puisque notre Seigneur, dans le passage de l'Évangile qui suit celui que nous avons lu pour cette messe, dit que les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Pourquoi ? Parce que ceux qui se confient dans leur place, qui ont confiance dans leur place de premier, n'ont pas assez confiance en Dieu et se retrouvent les derniers. Les derniers, eux, n'ont pas confiance dans leur place, elle est nulle. Donc ils ont confiance en Dieu et ils se retrouvent les premiers. Alors la Sainte Vierge est venue nous dire qu'elle était là, à notre disposition. Bien sûr, elle demande à la pénitence, elle demande de s'humilier pour justement quitter nos mauvaises convictions qui sont de l'orgueil finalement. Alors, je célèbre aujourd'hui la messe à Paris, enfin dans la région parisienne. Vous pourrez vous unir à la messe que je célèbre. Vous pourrez faire la communion spirituelle. Et comme chaque dimanche, soyez bien certains, mes bien chers frères, que je vous porte tout particulièrement dans ma prière et que, bien que nous soyons séparés par la distance, vous serez, je vous porte à l'autel, sur la patène, pour vous offrir à notre Seigneur Jésus-Christ et par la Très Sainte Vierge. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.